Écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur.
seras bientôt un homme libre. Tu dois être heureux. Puis, il s'est arrêté de parler. Des gouttes de sueur perlent sur son visage. Charles prend un mouchoir et le passe sur le visage. Tu as besoin de quelque chose?
Oh, j'attends. Oh, si. Ouvre la fenêtre. Je veux entendre la nuit.
Et Charles exécute. Retourné vers son grand-père, il s'est agenouillé, il serre la main. Le rôle du grand-père recommence. Ses lèvres sont blanches et sèches. La fraîcheur de la nuit entre dans la pièce.
Oh, les dernières minutes, je vais râler, hurler, crier peut-être. Mais ce sera malgré moi. Mon esprit restera net. Il est douce ce soir. Donne-moi à boire.
Charles remplit le verre qui est sur la table de nuit. Et du jus d'orange. Il se penche et le met à la bouche du grand-père qui essaie d'avaler une gorgée. Mais il fait la grimace et crache sur le sol le liquide.
Je te demande pardon.
Charles remet le verre sur la table.
N'oublie pas une chose, mon petit. L'amour, c'est tout. Mais méfie-toi des amours effrénés ou destructrices. Les femmes peuvent être cruelles, égoïstes et perdre l'homme. Aime et reste lucide. Ne te laisse pas prendre non plus par le monde, l'argent, la mode. Reste toi-même et noble. Tu vois, j'ai mal. Se passe bien. N'aie pas peur de garder ta main dans la mienne. Elle ne risque pas de te faire mal. Elle n'a déjà plus la force. Et bientôt, elle ne sera plus qu'une chose inerte. Un mort ne risque pas de faire mal. J'aurais aimé rester plus longtemps ici. Nous n'avons fait qu'une seule fois le tour du lac. Embrasse-moi. Je t'aime, tu sais.
Charles se penche et l'embrasse sur la joue. Crie le grand-père en faisant un bond en avant, puis retombe sur le lit, les yeux et la bouche crispés.
échala toujours sa main dans la sienne.
Grand-père !
Charles se met à genoux et lui baise les mains. Le jour vient de se lever et éclaire petit à petit la pièce. Ce n'est que cela la mort. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai plus peur. Merci grand-père. Tu m'as appris à vivre et toi, tu m'as enlevé la peur. Tu m'avais sanctifié et je suis libre. Je serai toujours dans mon corps. Pour que je sois un homme,
je sais bien,
toujours dans mon cœur, toujours.
L'oiseau qui nuit au paradis, tu ne crois jamais ce qu'il te dit. L'oiseau qui chante est un menteur, l'amour non plus.
Se sent calme et fort. Une nouvelle vie commence pour lui, une vie d'homme. Parmi les hommes, mais libre, c'est-à-dire en les restant pur. Libre en restant pur.
Marion, Guillaume, furieux contre Arlette, qu'il a laissé seul, passer la nuit chez elle. Furieux, il fait son numéro de téléphone. Il en a marre. Il se met à crier. Salope, merde, je te déteste, j'en ai marre. Marre de tout, tu fais chier, je ne fous pas la fenêtre, vieille pute, salope. Vous vous êtes trompé de numéro. Guillaume s'arrête d'un coup, confus. Il dit, excusez-moi. Ce n'est rien. Guillaume lui dit, bon, eh ben, ça arrive, hein. Vous n'êtes pas bien ? Guillaume fait, quoi ? L'autre lui dit, vous n'êtes pas bien ? Mais je ne vous regarde pas ! Non, bien sûr. Oui, ça ne va pas. Et puis, je m'en fous, personne ne peut me comprendre. Je suis une grosse merde qui se drogue, boit, et voilà. Vous êtes content ? L'autre lui dit, je comprends. Comprends quoi ? Moi aussi, je suis passé par là. Et de quoi, merde, j'en ai assez. L'autre lui dit, peut-être bien, mais pour moi, je sens que vous souffrez. L'autre lui dit, non, vous ne pouvez rien savoir. Il se met à chialer, malgré lui, parce qu'il est ému, parce que quelqu'un lui parle comme ça, lui dit en pleurant. Ma copine me prend pour une merde. Mes parents, pour un fou. Je suis enfermé dans une merde. Je peux rien faire. Je fiche rien. La voix lui dit, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Guillaume lui raconte ses ennuis. Et puis, ses examens, son cabinet, il parle d'Arlette, de tout ça, où tu dis, tu dois avoir plus confiance en toi et vivre autrement. Comment ça ? Si tu crois que c'est simple ici, où tu dis, écoute, je ne peux pas te parler si encore j'ai affaire. Guillaume se sent triste. Pour une fois que quelqu'un lui parle, ça fait des années qu'il n'a pas osé parler à quelqu'un. Il fait. Ah ! Moi, tu demandes, tu veux que je te donne mon numéro de téléphone ? Oui. Il le lui donne. Je m'appelle Charles Lanteuil et j'habite Paris. Allez, au revoir. Courage ! Il a raccroché. Guillaume se trouve tout drôle et étourdi. On lui a parlé, ça lui paraît bizarre. On aimerait s'y rappeler de suite, mais il ne le peut puisque l'autre a affaire. Alors, il reste songeur et dit enfin qu'il a quelqu'un qui le comprend. Il le prend pas pour une merde. Il se sent heureux. Il y a toujours des difficultés avec Arlette. Il continue à boire et à fumer. Peur de la solitude. Lorsqu'il va chez ses parents, il se sent gêné. Durant la journée, malgré lui, il pense à cet appel téléphonique. Il a envie, c'est de le rappeler, Alors, il fait le numéro. Allô? C'est moi, Guillaume, la personne du téléphone. Ah, c'est toi, ça va? Pas tellement. Je vois. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Pas grand-chose. Jean lui dit, faut pas rester enfermé comme ça. Il faut sortir un peu. T'aérer. Mais il n'y a rien à voir. Mais sors simplement pour marcher, pour te dégourdir. Et puis, il faut t'occuper l'esprit. Lire. Oui, lire, ça te fera du bien. Quoi? N'importe quoi, des romans. Daniel Rope, Céline, Cocteau, Gide, Colette, tu vois? Il me dit, attends, je vais noter. Et petit à petit, au fur et à mesure des appels téléphoniques qui deviennent de plus en plus nombreux, Guillaume essaye de changer de vie. Il se promène un peu, fait le tour du parc de son quartier et achète des livres. Il se met à aimer lire et en parle à Charles. Je sens mieux. Oui, il m'aime lire. Ça le sort de son monde. Il devient même accro de la lecture. Pense toujours à Charles et se dit dans la journée, faut que je lui dise ceci ou cela. Il peut s'empêcher de lui parler. Et lui parler pendant des heures. Parle de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il aime, de ses angoisses. Charles a de la patience pour supporter ses appels si fréquents et longs. Mais il aime entendre Guillaume parce qu'il veut l'aider. Guillaume se confie, lui dit tout, absolument tout. Mais Charles le fait parce qu'il sent que ça fait du bien à Guillaume de parler. Ça le met en confiance. Un jour, Guillaume a fait une grosse bêtise. Il avait envie d'aller au McDo manger. Alors il a pris sa voiture, bourrée, et il y est allé. Durant le trajet jusqu'au McDo, il a parlé au téléphone à Charles. Et pour le retour aussi. Charles n'a rien dit de peur de lui faire peur et qu'il perde confiance. Ce qui peut lui faire faire un accident. Il a été content lorsque Guillaume lui a dit qu'il était dans son lit. Alors Charles lui a dit qu'il a failli, ce qu'il a failli avoir. Guillaume prend peur. Il se dit qu'il ne recommencera plus. Et diminue le vin. Guillaume se comporte comme un gosse. Qui est tellement heureux d'avoir Charles, un ami, un vrai, qui ne lui fait pas la morale, mais lui dit ce qui n'est pas bon pour lui, c'est tout. Charles lui dit surtout d'arrêter la drogue et le vin. Guillaume lui dit qu'il n'y peut rien. Et puis le coq m'a dit que c'était normal, parce que je ne faisais rien. Guillaume lit beaucoup, se détend et écoute des CD aussi. Il a toujours besoin de drogue. Quand il va chez Arlette, elle le reçoit toujours aussi mal. Ça lui fait mal qu'elle le reçoive mal. Mais elle lui donne ce qu'il demande. Bien sûr qu'elle le reçoit mal. Elle est occupée à cause de la mémoire à faire, mais c'est pas facile. Et en plus, elle a un mec comme lui, qui est une vraie loque. Le temps passe. Un jour, Guillaume n'en peut plus. Il faut absolument du cannabis. Téléphone à Arlette. C'est le répondeur. Allô, c'est Guillaume. Peux-tu, s'il te plaît, m'apporter de la dose? J'en ai besoin. Merci. Et il attend nerveusement. Le temps passe. Petit à petit, l'anxiété diminue toute seule. On a sonné à la porte. Il va ouvrir. Il entend des pas dans les escaliers. Elle s'est sauvée et déposé le paquet. Il se dit, elle est partie comme ça. Il sait que c'est fini. Oui, fini. Il ne la verra plus. C'est normal. Elle faisait partie de la nuit.
Viens pleurer sur mon épaule.
Prends le paquet.
On ne me souvient tant. Ce qui fut jamais plus.
Ça ne lui dit plus rien. Plus rien.
Et toi que j'aimais tant. Je sais bien, tu partiras.
Qu'elle ne reviendra plus jamais, qu'il ne reverra plus.
Plus je t'aime et plus je meurs. Les choses sont ainsi faites. Les sauts sont toujours pleureurs. Les amours toujours défaites. Les souvenirs sont sans.
Thank you. Guillaume téléphone à Charles. Et lui dit, maintenant que je l'ai, je n'ai plus envie. Charles lui dit, c'est bien. Mets le paquet dans un tiroir. Et n'y touche pas. Comme ça, tu ne seras pas tenté d'y toucher si tu es dans un tiroir. C'est ce qu'il fait. Et Guillaume, d'un coup, décide d'arrêter. Parce qu'il s'est aperçu que ça ne sert à rien. Il peut s'en passer. C'est pas ça qui lui enlevait son cafard. Charles est heureux. Lui dit, tu vois, maintenant, tu vas sortir de la nuit. Guillaume lui dit, c'est grâce à toi. Parce que mes pensées étaient très occupées en pensant à toi. Et il est heureux. Charles lui dit, maintenant le vin. Attends, pas tout de suite. J'ai besoin de quelque chose tout de même. Charles lui dit. Tu vas y arriver. Et c'est grâce à toi. Ils se parlent souvent. Guillaume se sent de mieux en mieux. Et aime Charles, parce que Charles lui donne confiance en lui. Ne le prend pas pour une merde. Un jour, Charles lui dit, tu devrais, c'est aller dans un lieu où tu as été heureux. Guillaume lui demande, pourquoi faire des lieux? Ça ne peut pas arranger. Quand on va dans un lieu, on s'emmène avec soi ses peines. Tu as peut-être laissé dans un lieu quelque chose qui t'attend. Il faut y aller. Peut-être un miracle. Là, tu deviendras peut-être libre. Tu vas sortir de la nuit pour entrer dans la lumière. Il faut, c'est que tu retournes au lieu où tu étais bien. J'en suis sûr. Guillaume lui dit, tu crois que je vais revoir la lumière? Oui, j'en suis sûr. Regarde, ta vie petit à petit bouge. Il faut que tu dises adieu à tes vieux fantômes de la nuit et aller à la lumière. Tu crois? Oui, retourne à l'endroit où tu étais heureux. Et on lui dit, c'est loin tout ça. Et pourquoi y aller? Pour retrouver la lumière, là où elle était pour toi. Quelque chose me dit qu'il faut que tu le fasses. Tu crois? Oui. Guillaume réfléchit, disant plusieurs plus, qu'il a peut-être raison. Réfléchit durant plusieurs jours. Lui aussi veut retourner à la lumière, comme dit Charles. Il en a assez de cette vie. Un Un espoir. Oui, un espoir. Le téléphone sonne. Il décroche. Oui, c'est Charles, ça va? Oui, ça va très bien. Je te quitte. J'ai affaire. À bientôt. Je te rappellerai. Et il a raccroché. Il a attendu toute la nuit. Il ne lui a pas retéléphoné. Il sait, sent que c'est fini. Sa voix était claire. Il lui a bien dit qu'il lui retéléphonerait. Il a senti une clarté dans la voix qui lui montrait qu'il sortait de la nuit. Et ça lui a fait mal. Parce que c'est peut-être pas à cause de lui, et peut-être même grâce à un autre. Il se sent trahi malgré lui. Comme pour les autres, qui lorsqu'ils en ont eu assez de lui, m'ont laissé tomber, m'ont rejeté comme une vieille chaussette. Malgré lui, il s'est mis à aimer ce jeune garçon et a voulu l'aider. Ça lui fait mal. Pas parce qu'il est sorti la nuit, mais sans lui. Parce qu'il se dit que c'est sans lui. Lui reste dans sa nuit. Se sent triste, vieux, vidé. Aimerait mourir. Oui, à ce goût amer. Ce goût amer qui aurait voulu ne plus ressentir, surtout en ce moment, c'est idiot. J'ai tout prévu, mais ça, mourir, parce qu'il se sent vidé, violé, seul, trahi par l'autre, sans avenir. Guillaume va bien et lui va mal. Parce qu'il sent que c'est pas grâce à lui. La lumière qu'il avait dans la voix la dernière fois n'était pas grâce à lui. J'aurais tant aimé fêter avec lui sa résurrection. Ne crois pas que c'est grâce à lui. Parce qu'il lui a dit, non, ce serait trop simple. Il lui semble qu'il n'y a rien pour les autres qu'une chose dont on se sert. Et lui, ne s'est-il pas servi des autres? Son grand-père, sa mère, et Gilles, il ne les a pas assez aimés, et sa mère, lorsqu'elle était malade. Il était égoïste. Lorsqu'elle est morte, il n'a rien ressenti. Pour sa mère, rien. Ni pour son père. Juste pour Gilles. Et pour son grand-père où il a senti quelque chose. Et c'était un peu normal. Mais pour les autres, c'était normal qu'il n'ait pas ressenti grand-chose. Parce qu'on l'a rejeté C'était à prévoir. Il lui avait dit qu'il oublierait qu'il était plus vieux que lui et que la vie le reprendrait. Il aurait voulu que ce soit grâce à lui. Et puis, il n'avait pas prévu qu'il aimerait, attendrait et lui aussi aurait tant besoin de lui, Guillaume. Que Guillaume de lui. Voilà. C'est fini. Mais une fois tout perdu, tout perdu. On lui a tout pris. Pas de reconnaissance. Il a un point au corps et la joie. De ne pas avoir la joie de la lumière. J'aimerais mourir. Lui n'aurait jamais pensé à ça. Qu'il ait envie de mourir. Faut pas chercher à trop s'accrocher aux autres. Mais c'est trop tard. Surtout si tu te rappelles, ne pas lui montrer qu'on était déçus, c'est ridicule. Le cafard. Oui, le cafard. Il se sent vieux, mais il a presque l'âge de Guillaume. Et puis, il ne sait pas, mais c'est que lui aussi est sorti de la nuit, grâce à Gilles, et Guillaume grâce à lui. Au pays bleu et vert. Il est très ému. C'est le pays où il a été le plus heureux. On voit le visage qui a un peu changé. Des maisons étaient crépies. Des fermes transformées en habitats. Un chemin a été goudronné. Mais il est resté le même. Peut-être plus petit que dans ses souvenirs. Le coteau moins haut. Moins loin. Il voit les gens. Il y en a beaucoup qui sont des nouveaux. L'école a été recrépie. L'église, même le café, l'épicerie. La place du village, tout ça l'émeut beaucoup. La place du village, oui. Croise des gens qu'il ne connaît pas. Ça le gêne. Et où est Marcon? Et la fille qui habitait en face de chez eux? Il y va ému. Ça lui fait drôle. De voir la maison. Il regarde à travers le portail. Elle ne semble pas avoir changé. Mais on a mis des jeux d'enfants dans le parc. La maison semble moins grande. Le jardin est moins touffu. Il y a plus de fleurs. Ça lui fait mal que quelqu'un habite là. Une femme sort de la maison. Elle est blonde. Avec dans ses bras un bébé tout blond. La femme le regarde, intriguée. Elle doit se demander qui est cet inconnu. Ça lui fait mal, mal, sa maison. Là où il a été si heureux. Et des inconnus qui y vivent, ils souffrent beaucoup. Ils s'éloignent. La maison plus loin de la fille, Martin, ou Elisette. La maison semble habitée. Mais est-ce bien eux? Il n'ose pas regarder. Il se sent seul, seul. Marche dans ses pensées. Suit la route et prend le chemin qui éloigne du village. Ça lui fait du mal. Je me souviens qu'il prenait ce chemin à vélo pour aller au lac. Et il y va. Le parcours lui paraît très court. Les bois moins touffus. Mais il se sent bien. Il arrive au lac, à ce lac, au milieu de la forêt. Au bord toujours rempli de ronces et de racines. La clarté du lac l'éblouit. Là aussi, il est très ému. Voilà la maison abandonnée. Où ils ont vu le clodo qui lui a parlé. Il y va, fait le tour du lac. Il sent moins grand que dans ses souvenirs. Tout est moins grand. Marche avec difficulté. Arrive à la maison. Elle est bien en ruine. Il est content de la voir. Elle est de partout. Et très ému de la revoir. Quelque chose lui dit que c'est la seule chose qui n'a pas changé. Entre dans la maison, plutôt dans les ruines. La regarde bien. Sort de la maison. Il fait très chaud. Le ciel est bleu. Le lac brille, lumineux. Il se sent mal, fatigué, fatigué. Devant la maison, il s'allonge sur le sol, la tête face au lac, et s'endort, épuisé. Il est réveillé par un petit bruit. Il voit bouger la lumière. Il voit bouger la lumière. Sortir de l'eau, nue, une jeune fille grande, mince. Les cheveux longs pendants, et les sorties de l'eau lumineuse. Elle marche sur l'eau, en allant vers lui. Il sait que c'est la lumière, et les sorties de la nuit. Oui, il est sorti de la nuit pour aller à la lumière. Souhaitons qu'elle ne l'ait vu pas trop. Qu'elle ne fasse pas perdre la tête. Attention, la lumière brûle. Quant à moi, mon corps ne va pas au-delà. Adieu, enfant de mon corps. Dernier mot, les francs blancs, si vous voulez plus en savoir sur eux, voir l'élu, etc. Le clochard qui était dans la maison abandonnée du lac, le dénommé François, c'est merveilleux monsieur bébé, son histoire. La fille du lac, celle de la fille du lac qu'il rencontre à la fin de l'histoire, c'est la jeune fille de la maison abandonnée qu'il a vue avec Marcon. Pas la maison du lac, mais la maison qui est pas bien loin du village, où il y avait le squelette. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas été politiquement correct, mais comme vous avez pu le voir et entendre, bien entendu, mais la réalité ne l'est pas, il faut la voir en face. Je n'ai pas montré les choses aussi noires qu'elles ne l'étaient. Les jeunes cons qui fument et se piquent avec de la merde le font parce qu'ils ont des problèmes relationnels et sexuels à 70% des cas. Le manque de la drogue, c'est le manque de la pègre. Chaque fois qu'un jeune con achète sa merde, cette merde donne de l'argent à la pègre et aux terroristes. Le garçon aux yeux verts. Début résumé d'idées, le 16 août 2006. Écrire levée de rideau, le 17 mai 2006. Écrire histoire, le 19 juin 2006, à 7h15. Fini de l'écrire, le 21 juillet 2006, à 7h20. 1250 pages. Début d'enregistrement au kilomètre, le 7 août, 8h30. Fini l'enregistrement au kilomètre, le 16 août, 10h15. Et début d'enregistrement pour les émissions, le 16 août à 14h. Fin des enregistrements pour émissions, le 20 août à 9h. L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.